Bonjour Michel Hazanavicius.
Bonjour.
Dans ce livre Carnet d'Ukraine, vous nous dressez les portraits de personnages rencontrés lors d'un séjour en Ukraine en novembre 2023. Et vous écrivez page 44, j'ai l'impression qu'ici tout le monde a une histoire à raconter. La guerre a plongé les gens ordinaires dans l'extraordinaire. Et c'est un assez bon résumé, je trouve, de tous ces portraits.
Oui, c'est des gens qui sont d'autant plus ordinaires ou qui nous semblent, à nous, en tous les cas à moi, d'autant plus ordinaires qu'ils ont vraiment une culture et une manière de vivre qui nous est très proche, qui est extrêmement européenne. Les valeurs qu'ils défendent sont les valeurs européennes et françaises, ouais.
Vous êtes allé à plusieurs reprises, je crois, en Ukraine. Comment ça se fait que vous avez eu cette possibilité-là ?
Ben, c'est une histoire un petit peu longue, mais disons qu'au début de, au tout début de la guerre, j'ai organisé une vente aux enchères pour envoyer de l'argent. Donc j'ai appelé plein de gens de cinéma pour qu'ils m'envoient des objets uniques. On a réuni 250 000 euros que j'ai envoyés sur une plateforme qui venait d'être créée par le président Zelensky, qui s'appelle United 24. Et à la suite de ce don, ils m'ont proposé d'être ambassadeur de cette plateforme, ce que j'ai accepté, évidemment, en fait. Donc j'ai été amené à aller plusieurs fois en Ukraine et parmi ces voyages-là, j'ai rencontré un militaire qui m'a proposé de venir rencontrer les gens qui se battaient sur le front. Donc voilà, c'est à peu près là, disons, qu'est née l'idée de ce livre.
Alors ce sont surtout des hommes qui sont présentés ici, mais il y a quelques femmes aussi, d'autant plus extraordinaires peut-être. Par exemple, Olga, dont vous faites un portrait absolument incroyable.
Oui, c'est une jeune femme de 24 ans, mais qui a un trajet de vie qui est exceptionnel, d'autant plus pour son âge. Mais c'est de toute façon une femme incroyable. Elle est violoniste de haut niveau. Elle est en passe de passer son brevet de chef d'orchestre. Elle est championne d'Europe de karaté. Donc avant même la guerre, c'est un destin incroyable. Et elle s'est engagée dès les premières heures du conflit. C'est-à-dire les premières bombes sont tombées sur Kiev vers 5h30 du matin par là. Et à 6h, 6h30, elle était au bureau d'enrôlement et au bureau militaire. Et donc voilà, elle a été blessée plusieurs fois, elle a perdu un œil, elle est, oui, je l'ai appelée super-héroïne parce qu'elle a vraiment tout de la super-héroïne, oui, c'est un destin incroyable.
Alors toutes ces personnes racontent comment elles ont basculé dans la guerre, comment elles vivent ça, comment elles ont dû improviser aussi, moi ça m'a beaucoup marqué, certains racontent avoir tapé dans Google quel équipement emmener ou comment on doit se comporter dans des tranchées, ce qui est assez sidérant.
Ben, c'est d'autant plus sidérant que c'est le type de réaction que nous pourrions avoir, c'est-à-dire ce que ça montre, c'est des gens qui ne sont pas du tout préparés à la guerre, qui ne croient pas à l'arrivée de cette guerre et qui réagissent comme des pacifistes convaincus, ce que nous sommes a priori, c'est-à-dire au-delà d'être des pacifistes convaincus, je pense qu'on est formés, éduqués comme si la paix était un acquis, et donc on est incapable de penser la guerre. Et c'était leur cas, exactement le type dont vous parlez, il s'appelle Roman, il était scénariste pour notamment le show de Zelensky, il fait des sketchs comiques, etc. Et c'est vrai qu'il raconte tout ça, c'est des choses dans lesquelles on peut complètement se reconnaître, parce qu'il y a une espèce d'improvisation et de quasi naïveté, en fait, avant que le conflit n'arrive, naïveté dans laquelle nous sommes plongés, nous, et on n'est pas préparé pour ce genre d'événement. Ouais.
Alors, il faut qu'on parle des forces culturelles en Ukraine, parce que vous gravitez beaucoup autour de ce projet-là. De quoi s'agit-il ?
Alors, les forces culturelles, c'est justement le militaire dont je vous parlais tout à l'heure, qui s'appelle Kolia, qui était chanteur et également présentateur télé avant la guerre et également poète. Et en fait, il s'est rendu compte, il s'est enrôlé le premier jour, et il s'est rendu compte du niveau de stress des soldats et à quel point la culture, les chansons, la poésie pouvaient amener du réconfort et pouvait permettre aux soldats qui étaient dans les tranchées, qui étaient au front, de se recentrer, de se reconnecter avec eux-mêmes, etc. Et donc il a monté cette unité qui maintenant fait partie intégrante de l'armée, qui s'appelle les forces culturelles. Et c'est avec eux que j'ai été. Je dois dire que j'ai vu effectivement la transformation de gens avant ces concerts qui sont organisés et après. Donc oui, moi j'étais plutôt avec eux, ce sont plutôt des artistes, mais les soldats qui se battent, c'est des gens de toute la société civile. C'est-à-dire, on parle là des artistes, mais c'est les gens que j'ai vus, c'est des chefs d'entreprise, des avocats, des ferronniers, des soudeurs, des ébénistes, des ouvriers agricoles. Il y a vraiment des gens de toute la société qui se sont engagés dans l'armée. Alors évidemment, on parle beaucoup, je dirais, des artistes, parce qu'il y a quelque chose peut-être qui est plus frappant de voir un écrivain ou un chanteur en treillis, mais l'Ukraine entière est représentée dans l'armée.
Et ils ont besoin de rire. Vous les interrogez beaucoup sur l'humour, sur ce qui les fait rire. Et c'est très difficile pour eux de raconter, parce que ce sont des blagues visiblement qui ne se partagent pas avec des personnes qui ne sont pas dans la guerre. Mais il y a un besoin de rire beaucoup pour oublier la guerre.
Mais comme je crois partout, il y a surtout un besoin de vie. En tous les cas, la vie passe partout en vrai. Et je crois que ce dont ils ont besoin aussi, c'est de mettre à distance toute cette violence et toute cette... ça pue la mort partout, tout le temps. Donc ils ont besoin de mettre tout ça à distance. L'humour et l'humour noir permet ça. C'est-à-dire que c'est une manière de rendre cette mort présente, mais en même temps en la tenant à distance comme un animal sauvage, si vous voulez, qu'on essaierait de dompter. Donc oui, il y a un humour. Alors effectivement, ils m'ont quand même un peu... Certains m'ont un peu raconté deux, trois trucs, mais c'est vrai qu'ils sont un peu pas très à l'aise parce qu'ils disent, mais vous, les civils, vous pouvez pas... comprendre, vous allez nous prendre pour des tarés si on vous dit ces trucs-là. Mais bien sûr qu'il y a besoin d'humour, c'est vital. Et je crois que plus les situations sont difficiles, plus on a besoin d'une mise à distance, bien sûr.
Alors tous ces portraits que vous dressez sont accompagnés de dessins très beaux, notamment je pense par exemple à 4 dessins à la suite d'un soldat qui rit de plus en plus et on l'entend rire en regardant simplement vos dessins. Vous dessinez depuis toujours ?
Depuis que j'ai 10 ans, oui.
Et donc c'est quelque chose qui accompagne votre vie et qui s'est imposé là-bas, vous avez eu envie de les croquer ?
De les croquer. Oui, j'ai eu envie d'être le plus léger possible, si vous voulez. Donc là, j'ai été avec des carnets et des crayons, et pas avec une caméra, pas avec une équipe. Ma démarche était plus la démarche d'un type lambda, disons. Alors, je me suis servi évidemment de mon statut de réalisateur pour organiser cette vente aux enchères dont je vous parlais. C'est sans doute pour ça qu'ils m'ont demandé de venir, etc. Mais moi, ma démarche personnelle, elle était plus... c'est pas une démarche de réalisateur. Le temps que vous passez avec des gens quand vous écrivez, quand vous les dessinez, etc., c'est pas du tout le même temps que l'immédiateté d'une caméra où vous captez quelque chose comme ça et puis c'est dans la boîte. Il y avait le rapport que ça a créé avec tous ces combattants était tout à fait spécial et en fait il y a eu des moments de grande intimité entre nous. Donc voilà, donc je suis très heureux d'avoir fait ce choix-là. Et puis par ailleurs, je vous dis, j'aurais été c'est-à-dire filmer, il faut une production, et puis c'est mon métier, si vous voulez. J'aurais été extrêmement mal à l'aise de gagner de l'argent avec une démarche comme celle-ci. Donc là, j'étais, en fait, ça n'engageait que moi. J'avais un papier, un crayon. C'est mon engagement, c'est mon temps, c'est mon énergie. Et en fait, ce livre, les droits d'auteur et les droits d'éditeur de ce livre seront reversés à cette plateforme United 24.
Michel Hazanavicius, vous signez Carnet d'Ukraine chez Alari. C'est pour moi une lecture essentielle en ce moment et on se demande souvent ce qu'on peut faire. Eh bien, en achetant votre livre, on fait un don à l'association United 24 mobilisée en Ukraine. Merci beaucoup.
Merci. Et d'ailleurs, j'ajoute juste quelque chose, c'est que vous n'êtes pas obligé d'acheter le livre. Vous pouvez aussi faire un don sur cette plateforme. Il suffit d'aller sur Internet, c'est très simple. Et si vous n'avez pas envie de lire, vous pouvez quand même faire quelque chose.
Certes, mais on part à la rencontre de personnes qui sont sur le terrain grâce à votre livre et ça, c'est quand même aussi merveilleux.
Bien sûr.
Merci beaucoup.
Merci.